bonjour également au docteur Mahdi Boukaouma. Merci d'être avec nous ce matin dans les studios de la chaîne 3.
Bonjour, merci de l'invitation.
Alors, monsieur Boukaouma, on va parler du renforcement de relations de l'Algérie avec les pays de la région dans un climat sous tension, un climat international sous tension. Lors du Conseil des ministres dimanche, le chef de l'État a insisté sur la concrétisation des accords signés avec le Tchad et le Niger dès que la directive a été donnée. Hier, une importante délégation s'est rendue au Tchad pour une visite sur des sites stratégiques du projet de la route transsaharienne. Est-ce qu'on peut revenir sur l'importance notamment de ce projet pour l'Algérie, pour le Tchad et pour la région?
Tout d'abord, si on parle des relations de l'Algérie avec le Tchad ou même les pays du Sahel, il faut rappeler que l'Algérie, depuis son indépendance, a été amenée une politique claire et nette et constante vis-à-vis de ses voisins du Sud et surtout les pays du Sahel. Et parmi les partenaires stratégiques de ces dernières années, on voit que les relations entre l'Algérie et le Tchad sont en pleine évolution. C'est très bien pour la région, c'est très bien pour les relations entre les deux pays, surtout sur le plan politique. On voit l'engagement politique des deux présidents. Voilà. Et surtout le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, a toujours rappelé la relation constante entre les deux pays. On a vu lors du dernier de l'IATF 2025 en Algérie qu'il y a une ligne aérienne entre les deux pays, ce qui permettra encore plus les échanges entre les deux pays sur le plan politique, économique, social, culturel. Et surtout, lors de la visite du président tchadien en Algérie, on a vu la signature de plusieurs partenariats dans différents domaines, surtout dans le domaine économique et même d'enseignement supérieur. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'étudiants tchadiens qui étudient en Algérie, c'est une fierté pour l'Algérie, surtout dans les échanges. Et si vous rappelez sur le projet de la transsaharienne, eh ben ça entre dans l'intégration économique de l'Afrique, parce que lors de la rencontre du président de la République avec la presse nationale, il a rappelé un truc très important. On peut pas faire de l'intégration économique au niveau africain sans des projets concrets.
Absolument.
Qui sont la route transsaharienne, des projets économiques aussi. On a vu la décision du président de la République, c'est l'usine du ciment, tout ça. C'est des projets concrets. L'Algérie s'engage concrètement dans les projets de l'Union africaine, dans les projets de l'intégration économique africaine. Au contraire de certains qui appellent l'intégration économique par des slogans, mais on voit rien sur le terrain. L'Algérie, il faut rappeler, dans plusieurs pays du Sahel, dans plusieurs pays africains, surtout avec l'Agence de coopération algérienne, où elle mène des projets, beaucoup de projets en Afrique. Sur le plan de l'intégration africaine, on a vu des projets au niveau du Tchad qui vont être réalisés, au niveau du Niger. Tout ça permettra d'encourager l'intégration interafricaine. Et surtout, avec cette route, il y aura des échanges commerciaux, il y aura le transit des marchandises tchadiennes vers le port de Jinjin. Tout ça permettra à l'évolution de l'intégration africaine, parce que si on parle de l'intégration africaine, si on prend les modèles qui ont réussi au niveau international, européen ou asiatique, ou même en Amérique latine, ou même l'Amérique du Nord, c'est des étapes. Il faut passer par des étapes pour arriver à une intégration concrète, économique, politique, tout ça. Mais la première étape, c'est les infrastructures de base, c'est les échanges. Parce que on peut pas faire du développement économique sans qu'il y ait la logistique.
Absolument.
Ça, c'est très important, parce que on peut pas remplir cet espace géographique s'il n'y a pas d'infrastructure et d'échange pour faciliter l'échange entre les pays. Surtout que l'Algérie s'est engagée depuis 2019 dans une réelle développement des infrastructures d'échanges commerciaux au niveau national, et maintenant il est temps de prendre ça au niveau africain pour une meilleure amélioration et intégration africaine.
C'est aussi un moyen, le développement des infrastructures, c'est aussi un moyen de ne pas laisser la place à certaines parties étrangères qui vont profiter de ce vide pour s'ingérer à travers cela dans les affaires intérieures de ces pays-là.
Bien sûr, vous venez d'ouvrir un truc très important qui se passe en Afrique depuis 2011, parce qu'il y a le recul de certaines puissances coloniales avant et de nouveaux acteurs en Afrique. Il y a une compétition depuis les 15 ou 20 dernières années sur l'Afrique, parce que l'avenir économique du monde, c'est l'Afrique. Parce que si on parle d'Afrique, c'est des pays vierges où il n'y a pas réellement de développement économique. Maintenant, ça commence. Et surtout que l'Afrique, il y a les richesses minières, pétrolières, gazières, des richesses surtout dans les terres rares, tout ça. Tout ça, l'Afrique est devenue malheureusement une proie pour les puissances étrangères qui se font la compétition pour prendre des parts de marché et même exploiter ces richesses-là. C'est pour ça que l'Algérie rappelle un principe politique très important. Elle le défend au niveau de l'Union africaine et même dans sa position depuis 1962, c'est la non-ingérence internationale. Parce que si on voit la multiplication des conflits, malheureusement, en Afrique, surtout sur le domaine du Sahel, ou même en Afrique centrale, c'est les puissances étrangères qui font durer ces conflits pour exploiter les richesses, mais il y aura sans contrepartie pour les peuples africains. C'est pour ça que l'Algérie appelle toujours à la non-ingérence étrangère, à la résolution des conflits africains, entre Africains et avec les institutions africaines. Mais malheureusement, il y a certains pays qui poussent à amener ces puissances étrangères malveillantes pour déstabiliser les États-nations en Afrique. Et l'Algérie défend toujours cette position de la non-ingérence et de gérer les problèmes inter-africains par les Africains.
On va continuer avec cette approche algérienne de développement. C'est une nouvelle forme de diplomatie. Je pense directement notamment au renforcement de nos relations également avec la Mauritanie, l'Algérie, où aujourd'hui eh bien, se tient la 8e édition du Salon des produits algériens à Nouakchott. On voit que la coopération entre l'Algérie et la Mauritanie est en pente ascendante à tous les niveaux.
Si on parle de ce chapitre-là, il faut même depuis le début, il faut rappeler que l'Algérie a pris une voie très importante dans sa diplomatie, c'est la diplomatie économique, parce que maintenant on voit le partenariat avec le Tchad ou même le partenariat avec la Mauritanie, si on rappelle avec beaucoup de pays africains, surtout lors du dernier IATF, où l'Algérie a fait beaucoup de partenariats économiques et commerciaux avec beaucoup de pays africains. Là, c'est très important parce qu'on démontre que l'Algérie a une nouvelle approche de la diplomatie économique. Après le développement réussi en Algérie sur beaucoup de plans économiques, il est temps d'exporter ce développement économique vers d'autres pays africains et aussi encourager les échanges commerciaux entre les pays africains, surtout voisins. On a vu ce qui se passe maintenant avec la Mauritanie. C'était un projet du président de la République depuis 2019, c'est de faire des zones franches entre les pays avec la Mauritanie. Tout ça pour encourager beaucoup plus l'intégration africaine, parce que on revient au début, on peut pas faire de l'intégration économique ou politique africaine sans qu'il y a des échanges commerciaux concrets entre les pays africains. Et surtout que l'Algérie, maintenant, sur le continent africain, a son expérience sur le développement économique, social, tout ça, peut donner son développement pour les autres pays africains, surtout la Mauritanie, on parle du Tchad, on parle d'autres pays africains. Tout ça permet de créer une nouvelle dynamique africaine, et l'Algérie est l'initiatrice de ça. Comme elle a été l'initiatrice de beaucoup de mouvements dans les années 60, 70, 80, maintenant elle est l'initiatrice d'un mouvement économique et de développement et d'intégration interafricain.
Toujours par rapport à la coopération, j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'Égypte, hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup forcément en matière de coopération économique. Le ministre du Pétrole et des Ressources Minérales égyptien était hier à Alger pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans les secteurs du gaz et du pétrole. Au-delà de la dimension économique, il y a également une dimension politique. C'est peut-être l'instabilité régionale qui fait qu'on revient vers des partenaires politiques et économiques fiables tels que l'Algérie.
Bien sûr, vu la situation aujourd'hui qu'il y a au Moyen-Orient, on est entré dans une crise systémique et malheureusement qui va durer dans le temps, surtout ce qui se passe avec l'évolution au Moyen-Orient. L'Algérie, c'est parmi les pays les plus stables en Afrique. C'est un pivot en Afrique, c'est devenu un pays pivot au niveau du Maghreb et même au niveau de la Sud-Méditerranée, parce que si on parle des pays de la rive sud-méditerranéenne, parmi les seuls pays stables et qui a des ressources énergétiques sur le plan du pétrole et du gaz et qui a un partenariat fiable vis-à-vis de l'Union européenne. On a vu récemment les accords qui ont été tenus avec l'Italie et tout ça, l'Union européenne. Tout ça démontre encore une fois que l'Algérie, c'est un fournisseur stable et surtout périn et stable pour la fourniture de cette énergie. C'est pour ça que maintenant, l'Algérie, il y a beaucoup de pays européens, du Moyen-Orient et même l'Égypte qui vient en Algérie pour demander, pour voir les nouvelles opportunités, parce que l'Algérie offre maintenant une certaine sécurité de l'approvisionnement énergétique et l'Algérie est un partenariat fiable et surtout sûr pour l'énergie fossile maintenant avec les changements géopolitiques et l'instabilité malheureusement qui règne au Moyen-Orient qui a des conséquences directes sur la sécurité internationale et surtout sur la sécurité énergétique mondiale.
Un autre partenaire très important de l'Algérie, la Turquie, c'est également un des partenaires, l'Algérie est un des partenaires stratégiques de la Turquie en Afrique.
Bien sûr, si on parle du partenariat turco-algérien, c'est très important parce que avec la signature lors de la visite de Monsieur le Président de la République en 2023 en Turquie, il y a eu la signature d'accords et aussi la visite du président turc en Algérie où il y a signature de plusieurs partenariats. Ils ambitionnent d'arriver à 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux d'ici 2026-2027. C'est très proche. On est aux alentours de 6-7 milliards de dollars. Là, ça démontre encore une fois que l'Algérie, avec sa nouvelle politique étrangère depuis 2019, avec l'avenue de Monsieur le Président de la République et surtout l'approche de la diplomatie économique, c'est d'avoir plusieurs partenaires. Parce Absolument. Que maintenant, on est dans un monde mondialisé, on peut pas avoir un seul partenaire, mais plusieurs partenaires, parce que on est entré dans un nouvel ordre mondial où il y a plusieurs partenaires et surtout qu'il y a une interdépendance économique, c'est de diversifier au maximum les partenaires pour assurer un développement économique serein et surtout avoir des relations stables et pérennes avec beaucoup de partenaires.
Alors, on va continuer à parler de la coopération entre la Turquie, l'Algérie et également les autres partenaires stratégiques de l'Algérie. Docteur Boukaouma, merci encore une fois d'être resté avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en relations internationales. On parlait des relations entre l'Algérie et la Turquie. C'est de fortes relations économiques, mais c'est également de fortes relations politiques.
Bien sûr, c'est de fortes relations politiques. Surtout, ça date pas d'aujourd'hui, le partenariat stratégique entre l'Algérie et la Turquie. Parce qu'on voit, il y a beaucoup d'entreprises turques en Algérie. Et aussi, il y a beaucoup d'Algériens qui investissent en Turquie. C'est vice versa. Ça veut dire, il y a une pérennité dans les relations. Il y a une certaine confiance entre les deux partenaires. Ce qui est très bien, c'est de développer ces relations, comme je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est d'avoir beaucoup de partenaires. On a vu que l'Algérie a beaucoup de partenaires maintenant, l'Italie, on parle de l'Espagne, du Portugal, de la Slovénie, tout ça. Et même surtout, avec maintenant, il y a un nouveau partenariat africain, c'est très important, de nouveaux partenaires africains, où l'Algérie exporte son expertise dans le domaine des hydrocarbures, dans l'infrastructure, dans le domaine énergétique, tout ce qui est électricité. Tout ça permet au développement économique de l'Algérie et surtout avoir une diplomatie économique constante et variée vis-à-vis de ses partenaires étrangers.
Alors, on essaie de contextualiser la position diplomatique de l'Algérie, la politique extérieure de l'Algérie, quand on voit que on est quand même au 68e jour de la guerre contre l'Iran. Les Américains ont tout de même décidé de suspendre l'opération Projet de Liberté dans le détroit d'Ormuz. Comment se positionner dans cette conjoncture politique internationale très complexe ?
Aujourd'hui, si on parle du conflit qu'il y a au Moyen-Orient, c'est complexe et très, très difficile à analyser parce que on connaît le début de la guerre, mais difficilement d'anticiper la fin de ce conflit parce on voit qu'il y a une crise cyclique et même une crise systémique. C'est plus grave, surtout en relations internationales.
Qu'est-ce que ça veut dire une crise systémique?
Parce que on voit qu'il y a des réactions, des feedbacks, il y a des inputs et des outputs et on ne sait pas les feedbacks, on n'arrive pas à les maîtriser parce que chaque fois on voit qu'il y a l'insertion de nouveaux acteurs dans ce conflit. On voit les conséquences au niveau régional et international. On voit sur l'instabilité économique mondiale. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui essayent d'y mettre des nouveaux acteurs qui sont hors de la région. Là, c'est très grave encore parce qu'on voit malgré qu'il y a le cessez-le-feu, mais des fois qui n'est pas respecté par les deux qui sont dans le conflit. Là, c'est très, très grave. Aussi, malheureusement, c'est l'impunité et le Conseil des Nations Unies qui n'arrive pas à apporter sa solution. L'ONU qui est malheureusement absente, qui n'arrive pas à gérer ce conflit. Et surtout, le truc le plus dangereux pour l'avenir de l'ordre mondial et peut-être même qui est très dangereux pour la sécurité et la paix internationale, c'est le non-respect du droit international. Là, parce que là, ça peut avoir des conséquences sur beaucoup de régions et d'États au niveau international. C'est pour ça que ce conflit, malheureusement, c'est plus entre deux pays, mais il y a beaucoup d'acteurs et de pays. Surtout, on a vu sur les conséquences du Liban, d'Irak, de Syrie. C'est beaucoup d'acteurs qui sont et de nations. Mm-hmm. Là, c'est pour ça que l'Algérie a toujours rappelé le principe sur le respect de la souveraineté.
Absolument, oui.
C'est très important parce que c'est un principe très important. Ce principe-là, l'Algérie remonte parce qu'elle a connu la révolution. On a récupéré notre souveraineté et on connaît la valeur de la souveraineté nationale. Et surtout, la gestion de la sécurité nationale doit être souveraine et surtout par les pays et pas déléguer sa sécurité aux forces étrangères, aux puissances étrangères, parce qu'on voit les conséquences qu'il y a aujourd'hui au niveau du Moyen-Orient. C'est pour ça que l'Algérie a appelé tous les partenaires et surtout aux pays frères du Moyen-Orient qu'il faut aller vers le dialogue et la médiation, parce que l'Algérie entrevoit toujours cette voie de médiation et dialogue, parce qu'on voit aujourd'hui le tout voie militaire ne règle pas les conflits, parce que tôt ou tard on doit revoir ça et s'asseoir autour d'une table et trouver une médiation pour ce conflit. Parce que l'éternalisation de ce conflit, il y aura toujours des conséquences très graves. C'est pour ça que j'ai parlé de crise systémique. Il y aura de très graves conséquences sur l'ordre régional et l'ordre international. Parce que maintenant, si on parle du Moyen-Orient, il y avait l'ordre régional d'avant le 28 février et maintenant, c'est pas quel ordre régional qui va venir après ce conflit-là. Parce qu'on voit aussi il y a des conflits interrégionaux, il y a un problème de leadership au niveau de la région du Moyen-Orient, il y a aussi la déstabilisation que fait malheureusement l'entité sioniste, où elle menace l'État-nation au niveau du Moyen-Orient, on voit l'instabilité qui règne dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, et surtout tout ça est très aggravé par ce conflit qui a démarré depuis maintenant 2 mois, où on voit pas la porte de sortie, et surtout chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, il y a l'aggravation de ce conflit. Maintenant on parle de la crise économique, du détroit d'Hormuz, tout ça, parce que maintenant après ça il y aura comment la gestion des détroits, parce que si on prend au moins
on n'y arrive pas
parce que maintenant il y a une nouvelle logique qui se développe pour la gestion des détroits, parce que si on prend au niveau mondial il y a 8 détroits, comment ils vont être gérés après cette crise là, parce que maintenant la gestion des détroits se pose après cette crise qui a eu au détroit d'Hormuz, et là malheureusement ça menace beaucoup l'avenir sécuritaire international et la sécurité maritime et même le droit international. Parce que maintenant, beaucoup se posent des questions, comment sécuriser ces détroits, comment leur gestion sera faite à l'avenir, parce que il y aura sûrement des conséquences après ce conflit-là, sur comment la gestion des détroits après la crise du détroit d'Hormuz, parce qu'on ne voit pas la porte de sortie.
Toujours par rapport à cela, quand on voit aujourd'hui que le chef de la diplomatie iranienne se trouve à Pékin pour des discussions avec son homologue chinois, cette visite, elle intervient à quelques jours d'une autre visite prévue par le président américain, toujours en Chine. Est-ce que la Chine peut être aujourd'hui un intermédiaire, j'allais dire.
Si je me rappelle bien.
Je vous avais invité, vous m'avez parlé de la Chine.
Voilà, c'était le 3 mars, je pense, on avait parlé de ça.
Absolument.
Ou le 2 mars, je me souviens pas. Je vous ai dit que parce qu'il y a des conflits, il faut pas dissocier ce qui se passe maintenant, tout ce qui est les conflits qui se passent au monde, entre ce qui se passe au détroit de Panama.
Oui.
Voilà. Parce qu'il faut le rappeler que les États-Unis l'ont récupéré. Absolument. Et maintenant, ce qui se passe au détroit d'Hormuz. Parce que si on prend sur le niveau international, les États-Unis sont en train de mener une politique de comment gérer tous les flux commerciaux et transition énergétique, tout ça. Parce que l'avenir du monde, c'est la sécurité énergétique. Parce qu'on voit le prix du baril, comment il y a certains États et économies, surtout l'Union européenne, qui fait face à une grave crise, et surtout les pays asiatiques. Et ce qui se passe depuis ce conflit-là, il y a une grave crise énergétique qu'on suit pas beaucoup. Il y a des annulations de vols, il y a une rationalisation de la consommation énergétique, du gazole, de l'essence, tout ça. Ça impacte beaucoup l'économie asiatique, surtout qu'aujourd'hui, l'Iran est parmi les premiers fournisseurs de la Chine. C'est pour ça que la Chine doit assurer sa sécurité énergétique et pétrolière. C'est pour ça que cette rencontre intervient dans un contexte international ambigu et complexe. Et surtout, il y aura la visite de Monsieur Trump au niveau de la Chine. Tout ça parce que tout ça, il faut le mettre dans le contexte qu'on est en pleine transition de l'ordre mondial. On va passer d'un ordre mondial à un autre ordre mondial. C'est pour ça qu'il y a des négociations comment gérer l'avenir énergétique du monde. C'est pour ça que maintenant, il faut bien voir ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y aura des conséquences sur tout le monde parce qu'on est dans un monde d'interdépendance économique, sécuritaire, tout ce que vous voulez.
Est-ce que ce conflit va s'exporter chez nous?
Quand vous parlez chez nous, au niveau africain...
Au niveau régional africain.
Bien sûr, on peut pas dissocier une région sur une autre parce qu'on est dans un monde d'interdépendance sécuritaire, d'interdépendance économique, d'un monde mondialisé et l'interconnexion est partout. C'est pour ça que l'Algérie est maintenant un partenaire fiable. Il faut le rappeler parce que l'Algérie, et le président de la République l'a bien rappelé, entretient de bonnes relations avec tout le monde, avec toutes les puissances, parce que on connaît les valeurs et les principes de la doctrine algérienne vis-à-vis de la politique extérieure. C'est le respect de la souveraineté, et l'Algérie est respectée par les acteurs majeurs de ce monde. C'est pour ça que l'Algérie demeure un partenariat fiable dans le domaine énergétique. C'est pour ça que l'Algérie défend toujours qu'il y a une médiation et une négociation. Parce que maintenant, ce qui se passe avec le monde, on peut pas continuer dans cette voie de tout militaire, la résolution des conflits par la force, parce que sinon on va rentrer peut-être dans une guerre illimitée où les puissances vont rentrer dans un conflit cyclique. C'est pour ça qu'il faut aller vers la médiation et la négociation. Aujourd'hui, si on prend le monde, il y a trois puissances majeures, c'est la Russie, les États-Unis et la Chine. C'est pour ça, maintenant, comment régler ce problème énergétique? Il faut trouver une solution, parce que si la crise continue au niveau des trois Hormuz, il y aura des conséquences sur le prix du baril de pétrole, sur la crise économique. Il faut rappeler que la Chine, parmi les plus grandes puissances économiques, c'est l'usine du monde. Tout ça aura des conséquences sur les pays du Sud. C'est pour ça, maintenant, il faut aller vers une médiation. La Chine a sa voix pour dire au niveau du Conseil de sécurité comment son approche, et surtout trouver une solution pérenne et durable pour la gestion du détroit d'Ormuz et surtout la sécurité énergétique pour les pays de l'Asie.
On va continuer, juste une dernière question, parce que c'est un point sur lequel vous êtes beaucoup revenu, c'est la souveraineté sécuritaire. Et vous dites que le fait qu'on ait accepté, entre guillemets, des bases militaires sur le sol de certains pays, eh bien, ça a été peut-être une décision stratégique qui n'était pas adéquate.
Bien sûr, on voit aujourd'hui qu'il y a les pays du Moyen-Orient. Il y aura...
Ils sont en train de payer ça.
Bien sûr, c'est pas ils sont en train de payer finalement... On peut parler d'erreur stratégique. Ils ont fait ça pour assurer leur sécurité, mais finalement, ça devient fardeau sécuritaire et un fardeau stratégique. C'est des décisions stratégiques qu'il faut revoir. Et parce qu'on peut pas construire sa sécurité et sa souveraineté avec l'appui des étrangers, il faut construire sa force sécuritaire par ses propres moyens et par ses propres enfants et par ses propres peuples. Il faut avoir une armée républicaine et pas une armée étrangère ou qui vont défendre votre nation. Ça, c'est un principe très important. Si on étudie l'histoire du monde et l'histoire des empires et des États, les États qui ont tenu, c'est que leur armée soit issue du peuple et qui fait durer sa pérennité, sa souveraineté, sa sécurité.
Merci beaucoup, docteur Mahdi Boukaouma, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en relations internationales. Vous étiez notre invité du jour ce mercredi matin. Merci encore une fois d'avoir été avec nous.